L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale de l'Afrique en marche. Elle sera consacrée à l'anniversaire du massacre du 17 octobre 1961 à Paris, quand des Algériens ont été jetés dans la Seine par la police française. Les événements qui ont marqué la fin de la guerre d'Algérie et durablement les relations algéro-françaises ainsi que la vie de plusieurs familles d'Algériens. Au micro Kamal Louadj, et c'est parti. Depuis l'indépendance de l'Algérie, histoire mémorielle de la guerre de libération et de la colonisation française était divisée en deux parties. Une période d'oubli jusqu'aux années 80, puis succède une autre dans les années 2000 qui prend la forme d'une guerre de mémoire. Cette division pose un sérieux problème car elle occulte les mémoires entretenues par des populations. Populations ayant vécu dans leur chair la déchirure, la souffrance comme les tiraillements de la guerre. Ainsi, pour pallier à ce manque, Belaïd Abban vient de signer un roman intitulé « La lune à Thargenzmour, la lune à la ravine des oliviers ». Professeur Abban est politologue en France, auteur d'essais sur le mouvement national algérien et la révolution algérienne. L'auteur a vécu enfant la guerre d'Algérie et connu la vie dans un village de regroupement en Kabylie, expérience qui l'a profondément marqué. L'objet du roman est la narration du vécu au jour le jour des bouleversements qu'elle a entraînés dans la vie d'une famille sur trois générations, une famille profondément arrimée à son terroir, la ravine des oliviers. L'auteur propose aussi une plongée dans le pays profond des années 50, permettant de prendre conscience du poids de l'occupation française avec son cortège d'humiliation et de violence sur la vie des habitants dont l'existence a été véritablement spoliée. L'Afrique en marche reçoit aujourd'hui le professeur Belaïd Abban. Nous allons évoquer son roman « La guerre d'Algérie » et le sens de son message en 2022 auprès de tous les pays africains qui cherchent à se défaire de l'emprise néocoloniale.
Bonjour, monsieur Abban.
Bonjour. Moi-même, je n'étais pas dans l'optique d'écrire un roman, en tout cas dans la suite des essais. L'idée était venue parce que c'était devenu une exigence après le certain nombre de conférences que j'ai faites, que ce soit en Algérie, en France, au Canada, en Belgique, où chaque fois les intervenants me disaient c'est bien ce que vous faites, mais est-ce que vous devriez peut-être parler un jour des petites gens, parce que les petites gens ont souffert. Là, vous parlez surtout de l'histoire politique, c'est-à-dire en fait la guerre des chefs et la révolution des chefs. Alors, voulez-vous nous parler peut-être un jour de la révolution des gens d'en bas? Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée d'une chronique des villages de regroupement. Je voulais même parler des faits réels. Et puis, au fur et à mesure que l'idée avançait, j'ai voulu m'octroyer une liberté romanesque, c'est-à-dire celle de décrire et d'écrire de manière totalement libre. Et d'ailleurs, si vous remarquez, le livre, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de lieu connu. C'est pour avoir une liberté totale, pour ne pas qu'on me reproche de parler d'un tel de manière approximative ou fausse. Donc voilà, l'idée du roman, c'est une promesse faite à des lecteurs pour qu'on puisse parler un petit peu des petites gens, des petites gens dont je faisais partie moi-même pendant la guerre de libération.
Pouvez-vous situer votre récit romanesque dans le temps et dans l'espace?
Le récit, c'est donc le récit des familles algériennes, des familles paysannes, des familles montagnardes, où que ce soit, c'est-à-dire en Kabylie, bien sûr, parce que moi, je suis de la Kabylie, donc j'ai une sensibilité géographique, une sensibilité climatique, une sensibilité topographique. Donc, chacun reconnaîtra effectivement que ça se passe en Kabylie, mais à aucun moment je n'évoque la Kabylie. Mais je vous redis que cela peut être n'importe quelle montagne algérienne. Alors, l'histoire, évidemment, commence au moment où les gens entendaient que la guerre était déclarée, mais après, il y a beaucoup de retours sur le passé pour d'abord asseoir le caractère des personnages et puis également pour que l'on comprenne toutes les souffrances vécues par les différentes couches de la société algérienne. Et donc, les lieux, c'est une montagne algérienne avec de l'eau, avec des ravines, avec des fleuves, avec des arbres, notamment des oliviers. Et puis, sur le plan temporel, c'est, on va dire, c'est l'automne 1954, c'est-à-dire en fait l'équivalent du 1er novembre 1954, sans le dire expressément. Voilà un peu ce qui se passe. Et puis après, les choses vont évoluer. Mais le récit est centré sur les déchirements d'une famille face à la guerre qui arrivait progressivement jusqu'à rentrer d'abord au village, le village d'Izra, les pierres, qui vont jouer un rôle considérable dans le roman, et puis après jusqu'au lieu dit qui est attenant à Izra, c'est-à-dire à Tel Ganzimour.
D'accord. Votre roman sort à pic, c'est-à-dire avec l'anniversaire des événements du 17 octobre 1961 à Paris. Est-ce que cela faisait partie d'un agenda? Est-ce que c'est calculé à l'avance ou
Non. Je suis heureux qu'il tombe à pic avec le 17 octobre et avec le 1er novembre. Mais ceux qui ont fait des livres, et notamment des romans, savent très bien que c'est une œuvre de longue haleine, puisque moi, le roman, j'y travaille depuis près de 2 ans et demi. Le roman a été plié, j'ai arrêté de corriger au mois de janvier. Et donc, j'ai envoyé aux éditeurs. Et puis, vous savez très bien, pour recevoir la réponse des éditeurs, ça peut mettre plusieurs mois. Et puis, ce retard est quelque part positif, puisque ça tombe près des commémorations du 17 octobre et celles du 1er novembre. Donc, il n'y a pas du tout d'agenda, mais c'est une heureuse coïncidence.
D'accord. Et concernant le récit sur la guerre et ce que les petites gens, comme vous le dites, ont vécu, est-ce que y a-t-il un ou plusieurs messages portés dans votre roman par rapport à ce que justement la famille algérienne, comme vous le dites, dans n'importe quelle région du pays, a vécu? Notamment, moi, ce qui m'a juste surtout attiré mon attention, c'est ce que vous décrivez, le déchirement entre ceux qui sont sortis, c'est-à-dire ceux qui sont allés au maquis, voilà, ceux qui sont restés. C'est général, parce que nous n'avons pas l'habitude d'écouter, d'entendre ce son. Et on a tendance souvent à l'oublier ou à l'occulter et montrer que le conflit qu'il y a eu entre les Algériens et l'armée française.
Oui, même dans les essais, j'ai abordé cette question. Dans tous les récits historiens, des historiens colonialistes, il est question des états d'âme de la population européenne d'Algérie, ce qui est tout à fait légitime, parce que malgré tout, c'était aussi un déchirement. Mais on ne prêtait pas beaucoup d'attention aux états d'âme des Algériens. Les Algériens ont souffert terriblement. Je peux même dire que les Algériens ont souffert puissance 10 par rapport aux autres catégories de la population algérienne de la situation coloniale. Mais non, on était considéré comme une masse informe qui ne ressent pas la douleur, qui ne ressent pas les vexations. Eh bien, c'est ce que j'ai voulu un peu corriger, du reste d'ailleurs, même à travers mes essais, pour dire que la population algérienne a énormément souffert de cette guerre et je ne voulais pas que notre mémoire se perde comme ça, comme un filet d'eau dans les sables. Et c'était presque un devoir pour moi de consolider, d'aider d'apporter ma part pour que cette mémoire soit consolidée, afin que nul l'oublie, parce que les gens pensent qu'il ne s'est rien passé. Or, il s'est passé des choses terribles, et c'est ce que j'ai voulu évoquer à travers ce livre. Bien entendu, il y a d'autres messages, comme vous l'avez souligné, il y a la question du courage. Moi, je me dis toujours, je me pose la question, si j'avais eu 20 ans, en 1954, est-ce que j'aurais pris le maquis? Mon frère avait eu 25 ans, il était père de 2 enfants, il a quand même pris le maquis. Est-ce que moi, j'aurais eu le courage de... Donc, je pose aussi la question du courage, je pose aussi la question que l'engagement des Algériens n'était pas quelque chose de monolithique. Je rappelle ça, il y a des gens qui tergiversent, d'autres qui atermoient, et puis des gens qui se disent est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller. Et puis il y a des gens, une jeunesse en tout cas, qui y va franchement parce que c'était un engagement de désespoir. Il n'y avait pas d'autre chose à faire que d'aller se battre et d'arracher la liberté et la dignité. Oui.
Ce qui est attirant donc dans ce que vous développez, c'est que pour vous, c'est un message très important, notamment aux jeunes générations. Ceux qui sont restés n'ont pas moins de mérite que ceux qui sont partis au maquis, parce que tout simplement, il fallait vaquer aux besoins de la famille. Hein. Et deuxièmement, c'est faire face aux affres de la torture, des visites de nuit de l'armée française, et sans armes, sans pouvoir se défendre. Donc, c'est très important d'ouvrir les yeux
par rapport à ça. Absolument, il y avait autant de courage d'un côté comme de l'autre. Pourquoi ? À l'époque, quand les jeunes sont déclarés prêchants à l'avenir, parce qu'il y avait une embuscade, des morts du côté colonial, les jeunes, ils savaient que l'armée allait venir et allait donc les arrêter et puis même peut-être exécuter, pour l'exemple. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils fuyaient vers les maquis. Ceux qui restaient étaient véritablement courageux parce qu'ils savaient ce qu'ils encouraient. Beaucoup de gens fuyaient vers les maquis parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés. Et ceux qui restaient faisaient preuve d'un très grand courage. Du reste, beaucoup parmi eux ont été arrêtés et certains ont été même abattus sur la place publique. Donc, le courage, c'est quelque chose de très complexe. Mmh. C'est variable en fonction de l'âge. Le courage d'un homme de 20 ans et le courage d'un homme de 30 ans sont très différents. Parce que quand on a 30 ans, qu'on a une famille, qu'on a des enfants, aller prendre le maquis ou prendre des risques, c'est quand même très, très différent. On peut se permettre d'être lâche à partir d'un certain âge quand on a des enfants, une famille à charge.
Donc, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vos personnages sont tous certainement importants dans le narratif de votre roman. Nous allons évoquer quelques-uns les plus importants. Parler de Kabran et de Taklit. Donc, d'où vous est venue l'idée de ces deux personnages, chacun dans son genre, chacun dans sa, comment dirais-je, dans son rôle de résistant, d'un point de vue comme de l'autre.
Oui, vous avez parfaitement bien choisi deux personnages qui sont très emblématiques du récit. Il y en a d'autres du reste, il y en a d'autres qui sont tous porteurs de sens. Kabran est un personnage très spécial parce que c'est un homme d'expérience qui a fait bien sûr la guerre 14-18 et qui l'a décrit d'ailleurs dans le livre et qui l'a décrit sans état d'âme parce que par la suite il s'est engagé dans la marine de guerre. Ensuite, dans la marine marchande, il a fait plusieurs fois le tour de la Terre et il a pu relativiser ce qui est arrivé en 14-18 parce que, en fait, il a réussi par s'en sortir. Et ça lui a appris beaucoup de choses, notamment une forme de sagesse, c'est-à-dire ne pas avoir peur de la mort avant qu'elle arrive. Il y a toujours un peu de distance. Il répète toujours, demain il fera jour. Demain il fera jour. Il porte tout le temps un message d'espoir. C'est aussi un personnage très important. C'est une nécessité pour moi de fictionner un personnage de ce genre parce que ça me permettait de rappeler qu'il y avait à l'époque des passeurs d'époque. C'est-à-dire ceux qui disaient il faut arrêter avec la sclérose de la tradition. On peut écouter de la musique, on peut écouter la radio, alors que peut-être que vous vous en souvenez pas, mais il fut un temps où vous ne pouvez pas écouter de la musique en famille. C'est pendant la guerre, avec les informations que donnaient les radios clandestines du FLN, qu'on pouvait écouter comme ça un peu de musique, et puis progressivement à l'indépendance, il y a une véritable révolution sociétale. Quant au personnage de Taklit, c'est aussi un personnage emblématique parce que c'est l'engagement de la bourgeoisie algérienne, la bourgeoisie commerçante en quelque sorte, parce qu'il n'y avait pas la bourgeoisie au sens strict du mot. Et puis, c'est une femme, et c'est une femme qui a pris conscience, une prise de conscience politique de l'ineptie, de l'injustice totale du système colonial. Mais il faut dire aussi, ceux qui liront le livre vont sentir que derrière l'engagement de Taklit, il y a aussi une très belle histoire d'amour. Parce qu'elle était certes très engagée, mais Elle était engagée parce qu'il y avait aussi un élan d'amour envers l'un des personnages centraux du roman, qui est Asalas. Et c'est des personnages qui ont existé. Le fait que je la décrive avec une robe et un treillis et des patogas, c'est une image que j'ai personnellement vue. J'ai vu des femmes revenir du maquis avec de telles, avec dans un tel accoutrement que j'ai appelé donc un habillement à la diable, une robe du terroir plus un treillis militaire et une paire de chaussures de marche. Voilà, c'est les deux personnages aussi. Taklit est également un personnage tragique, ouais, parce qu'elle va aller jusqu'au bout. Elle voulait même pas. Alors, je vais pas dire tout du roman. Elle va aller jusqu'au bout. Et puis, en fait, elle, son côté tragique, c'est le fait qu'elle ait lié totalement son sort à cet officier dont elle était devenue la femme devant Dieu, c'est-à-dire une sorte de fatha dans les maquis. C'est donc le personnage de Taklit est tout à fait emblématique parce qu'il y a eu des femmes qui sont allées au maquis un peu dans le même état d'esprit et instruites, filles de bourgeois. Voilà. Et j'ai posé d'ailleurs le problème dans le livre.
L'historien que vous êtes, l'essayiste sur le mouvement national, vous avez écrit pour plusieurs essais.
Oui.
Le passage de l'écriture d'essais historiques documentés avec la rigueur académique nécessaire vers le style romanesque. Comment a été le passage et pourquoi le choix de ce mode narratif?
Le passage a été très difficile. Il a été très difficile. Pourquoi? Parce que j'ai fait plusieurs faux départs. Les faux départs, c'est-à-dire j'ai commencé un roman en jeu, un narrateur interne à la première personne. Et je me suis rapide, j'ai perdu peut-être 6 mois. Et je peux dire qu'au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que j'étais très limité parce qu'un narrateur interne en jeu, il ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des autres personnages. Il ne peut pas deviner leurs intentions et vous ne pouvez pas l'écrire parce que techniquement, ça ne se fait pas d'écrire en jeu et puis de rentrer dans la tête des personnages. Et donc, j'ai abandonné le point de vue interne, ce qu'on appelle le point de vue interne. Et puis, je suis passé à ce qu'on appelle la narration omniscient, le narrateur omniscient. C'est-à-dire, c'est une liberté totale d'écrire. Le narrateur, il n'est pas dans l'histoire, il est presque un spectateur extérieur et il décrit tout ce qui se passe, il voit tout ce qu'il y a dans les têtes, tout ce qu'il y a dans les cœurs, les intentions, etc. Et donc, ça m'a facilité beaucoup de choses. Pourquoi je suis passé à une narration omniscient? Parce que je ressentais un besoin de liberté totale pour écrire et décrire. Et puis, j'avais beaucoup de choses à dire, et sans le narrateur omniscient, j'aurais pas pu le dire. Mm-hmm. Ça astreint également à un certain nombre de règles sur le plan de la technique romanesque. Voilà un peu ce qui m'a conduit à choisir la narration omnisciente. Mais le point de vue interne, quand même, reste dans les dialogues. Parce que dans les dialogues, je pouvais pas faire parler les personnages n'importe comment. Il fallait les faire parler comme ils parlent dans leurs conditions réelles, en fonction de leur niveau d'instruction, en fonction de leur âge, en fonction de leur engagement, etc. Donc ça, c'est voilà, on se rattrape un peu par le biais des personnages.
Partant de tout ce qui s'est passé au début, en particulier du XXe siècle, et à la lecture de votre roman, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien entre ce que vous décrivez dans votre roman par rapport à la lutte du peuple algérien pour la liberté et ce qui s'est passé dans beaucoup de pays africains ou d'Amérique latine. De toute façon, il y a des principes universels qui auxquels adhère toute l'humanité, la liberté, la souveraineté, le droit à beaucoup de choses fondamentales. Donc, est-ce que vous avez pensé, justement, sciemment, de donner un sens universel au message que porte votre roman?
Évidemment, si vous voulez, je ne me suis pas du tout, à aucun moment, je me suis départi de l'idée que je devais écrire quelque chose sur les Algériens, mais que ça devait avoir une résonance universelle. Pour un auteur, c'est un rêve. Alors, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas, c'est un autre problème. Moi, évidemment, d'abord, il faut savoir que la révolution algérienne, la lutte du peuple algérien, le soulèvement du peuple dirigé par le FLN, ce soulèvement a été une sorte de, d'exemple vertueux pour toutes les luttes de libération africaine. Et c'est d'ailleurs, ce qui est très important, c'est d'ailleurs la lutte algérienne, l'organisation de la révolution algérienne qui a précipité les indépendances non seulement des pays africains, mais également de nos voisins marocains et tunisiens. Donc, la révolution algérienne est porteuse d'universel. Et j'ai voulu aussi le traduire à travers ce livre-là. Porteuse d'universel aussi par rapport aux luttes de l'Amérique latine. Moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les damnés de la Terre. Mm-hmm. Les damnés de la Terre décrits par cet auteur mythique, Frantz Fanon.
Ouais.
Et donc, chaque fois qu'il y a un film ou un livre traitant de petites gens qui ont subi les affres de la domination, j'ai un élan pour aller regarder ou lire. Et je peux dire aussi que j'ai trouvé de grandes similitudes entre la lutte algérienne et ce qui s'est passé au Mexique dans les premières décennies du siècle dernier, ce qu'on appelle, décrit par un très grand romancier qui n'a pas écrit beaucoup, mais qui a écrit des choses extraordinaires, c'est Juan Rulfo, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Llano en flamme ». Et j'ai trouvé que les cristeros, ils portent pas le même message, hein, que les cristeros qui se révoltaient contre le gouvernement central mexicain et les mujahidines de l'ALN et FLN avaient beaucoup de ressemblances. C'est-à-dire, vaincre ou mourir, et puis prêt à tous les sacrifices et à tous les excès. C'était exactement dans le même état d'esprit que les cristeros avaient combattu les régimes qui ont dominé le Mexique sous la férule de l'hégémonie yanquiste. Voilà, effectivement, je ne me suis jamais départi de cette idée, même si je décris un microcosme villageois, je me suis dit, il faut quand même que ce soit une histoire dans laquelle chacun peut trouver une sorte d'exemplarité.
Identifié.
Voilà.
Donc, votre roman tombe avec la célébration de l'anniversaire des événements du 11 octobre 1961.
17 octobre.
17 octobre 1961, voilà. Qui est une date importante dans la lutte du peuple algérien pour la liberté, mais aussi, on peut dire que c'est une date charnière dans la relation entre la France et l'Algérie, qu'elle soit d'un point de vue officiel ou populaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire, rappeler à nos auditeurs succinctement en quoi consistent ces événements du 17 octobre 1961?
17 octobre 1961, donc ça s'inscrit dans le relais que prenaient le mouvement populaire, les manifestations populaires, à partir du moment où le plan Châle avait complètement laminé les maquis. Donc, le FLN avait décidé c'est d'ailleurs ça le sens véritable de la primauté du politique sur le militaire. C'est-à-dire que les Algériens, à aucun moment, ils n'ont pensé qu'on pouvait remporter une victoire militaire sur le système colonial. Et donc, c'est le côté politique qui allait primer, côté politique, médiatique et diplomatique. Donc, le 17 octobre 1961, ça a été impulsé par le FLN de la Fédération de France, c'était pour porter devant le monde, parce que Paris, c'est quand même une ville totalement ouverte sur le monde, porter la lutte du peuple algérien aux yeux du monde. Alors, voilà, donc je le remplace dans son contexte historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le FLN donne instruction à un certain nombre de militants pour organiser une réunion de protestation contre le couvre-feu qui a été imposé aux Nord-Africains, c'est-à-dire en fait aux faciès, et notamment aux Algériens. Et les Algériens ont décidé de braver le couvre-feu. Ils sont sortis, en kabyle, chouch, femmes, personnes de tous âges et enfants.
Hommes, femmes, vieillards et enfants.
Absolument. Ils sont sortis en tenue de villégiature, c'est-à-dire qu'ils étaient endimanchés, ils sont allés manifester pour dire nous avons le droit de sortir comme tout le monde. Et il y a eu une répression féroce qui a fait plusieurs centaines de morts, à partir de deux centaines en tout cas, avec des procédés de mise à mort parfois atroces, puisqu'on les a jetés avec des blocs dans la Seine. Et ça a été quelque chose d'épouvantable. Alors, c'est une réaction d'une extrême brutalité. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi ? Pourquoi un pays des droits de l'homme ? Pourquoi un pays censé être civilisé, mais qui a d'ailleurs fait des entorses terribles à ce côté civilisé, déjà en Algérie, au cours de la conquête et au cours de la guerre de libération nationale. Pourquoi donc il y a eu cette répression sauvage à l'encontre d'un peuple pacifique? D'abord, l'une des premières réponses qui vient à l'esprit, c'est qu'il ne considérait pas, le système colonial ne considérait pas les Algériens comme des êtres humains normaux, comme des égaux. Ouais. Il y avait un racisme structurel qui était ancré dans le national-colonialisme français de l'époque, c'est-à-dire ils ne peuvent pas prétendre avoir des droits. Or, ce que voulaient montrer les Algériens qui étaient sortis, c'est nous avons des droits comme tout le monde. Et ça, l'establishment colonial ne pouvait pas le tolérer. Deuxièmement, les Algériens avaient remporté une victoire politique. Il ne fallait pas montrer aux yeux du monde qu'ils étaient là en train de manifester, qu'ils avaient gagné, alors que le système colonial avait remporté la bataille militaire. D'abord à Alger, avec la bataille d'Alger, et deuxièmement avec le Blanchard. Et les voilà maintenant qui prétendent à la victoire en sortant manifester dans la rue. Voilà. Et puis, ceux qui se souviennent, c'était comme un non-événement. On n'en a pas parlé. Donc, ça a été complètement occulté.
Et c'est justement, je voudrais d'abord, parce que c'est pratiquement, je parle sous votre contrôle, de 1871, depuis l'attribution du statut de nationalité, quand le système colonial a donné le statut d'indigène aux Algériens, et que, disons, cette philosophie ou cette culture a considéré l'autre comme un sous-humain qui n'a pas le droit à être traité comme sur le même piédestal que les autres citoyens de l'Empire ou de la République. Ça, c'est-à-dire que ce discours-là est ajouté au fait que pas mal d'actes ont été occultés, comme vous le dites à juste titre, ces événements du 11 septembre, nourrissent justement des tensions, même actuellement en France, déjà, et entre la France et l'Algérie. On voit que chaque visite officielle entre les deux pays, il n'y a pas une seule visite où on parle du futur, mais on parle surtout de la mémoire. Pourquoi tout ça? Comment pouvez-vous…
Il y a deux choses très rapidement, parce que c'est des questions très complexes, mais on peut prendre un jour du temps pour en parler. La première des choses, c'est que chez les Algériens, il y a deux choses très importantes. La première, c'est que les Algériens se sentent blessés, se sentent profondément humiliés par le sort qui a été fait à leurs aïeuls. C'est-à-dire, vous aviez évoqué tout à l'heure le problème des droits. C'est en 1881 qu'a été signé ce qu'on appelle le Code de l'indigénat, c'est-à-dire reléguant toute la population indigène à un rang de sous-humanité et qui pouvait être traité comme on peut traiter, qu'on pouvait les mettre en prison sans jugement, n'importe quel Européen pouvait faire mettre en prison un Algérien. Ça, c'est donc ce ressenti terrible qu'ont gardé intérieurement c'est une blessure profonde. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est que les Algériens, ils ont une très grande fierté aussi. Très grande fierté, c'est-à-dire, ils ont gagné la guerre. Ils l'ont gagné politiquement, mais ils ont consenti un très grand sacrifice. Et ça, c'est une très grande fierté. C'est d'ailleurs l'opposé symétrique de ce qu'ont ressenti les colonialistes. C'est-à-dire, ils ont gagné militairement, ils ont perdu politiquement. Donc, c'est ça qui fait que je ne crois pas qu'il y ait une réconciliation mémorielle. Je ne crois pas à ça. Parce que le ressenti des deux mémoires est totalement contradictoire. Les uns sont fiers d'avoir remporté une victoire, mais une victoire très très douloureuse, et les autres sont politiques bien sûr, et les autres ont gagné la guerre militairement, mais sont partis penauds et honteux, c'est-à-dire que c'est une victoire honteuse, victoire militaire honteuse. Les Algériens, c'est une victoire politique heureuse, fière et heureuse. Et c'est ça qui fait que les mémoires sont très difficiles à réconcilier.
Et donc, comment en sortir de là?
Eh bien, c'est la réelle politique qui a prévalu jusqu'ici. C'est-à-dire, la France et l'Algérie ne pourront jamais devenir des ennemis. C'est-à-dire, c'est comme un vieux couple. On peut se disputer, on peut y avoir des tensions, mais ils ne peuvent pas se séparer. C'est comme ça parce que le vieux couple, qu'est-ce qu'il fait? Il a produit aussi une progéniture, il a produit des enfants. Eh bien, la France et l'Algérie, il y a beaucoup. En France, il y a une personne sur huit qui a quelque chose à voir avec le passé algéro-français.
D'accord.
Soit en tant que Français, soit en tant que conjoint, soit les binationaux, les gens qui ont vécu ici. C'est une relation très, très complexe au point où il est absolument impensable que ces deux pays deviennent ennemis. Même si, effectivement, il y a des tensions mémorielles épisodiques. Et c'est là toujours la réelle politique qui va prédominer parce qu'on ne peut pas, c'est pas possible de devenir.
La réelle politique, autrement dit, le futur, ce qu'on peut construire
voilà,
ensemble.
Voilà, c'est penser à l'avenir.
Le futur, c'est pour le, voilà,
c'est ça.
Penser à l'avenir.
Voilà, si on veut éviter les sujets qui fâchent, c'est de ne pas rappeler les histoires de mémoire parce que, d'un côté comme de l'autre, les sujets de la mémoire sont très sensibles et oui. Ça fâche plus que ça ne réconcilie.
Et pour finir, je fais appel à votre statut de politologue. Donc, en partant de le message universel que porte votre roman, comment vous lisez la situation internationale actuelle et qu'est-ce qui a fait? Est-ce que le monde est sorti de la mentalité colonialiste? Est-ce que et qu'est-ce qui fait que le monde est arrivé à un degré de crispation et de dangerosité qui peut provoquer une déflagration mondiale, même qui peut être nucléaire?
Je reviens donc à cette très grande tension, cette crispation, comme vous le disiez tout à l'heure, du monde. Personnellement, je m'intéresse comme tout un chacun, mais je peux dire même que je m'intéresse d'assez près parce que je veux être la sentinelle vigilante pour savoir ce qui peut se passer quand on est père de famille. C'est très important de savoir vers quelle destinée nous mène le monde actuel. Donc, effectivement, c'est une très grande tension, une très grande crise de crispation. Alors, pourquoi ? La première des réponses, c'est que d'abord, cette crise ne date pas de la guerre en Ukraine, elle date de l'émergence au début de ce siècle, du 21e siècle, et même un peu plus tard, d'autres puissances d'égale importance, notamment sur le plan militaire et sur le plan économique, la Chine sur le plan économique et la Russie sur le plan militaire. Donc, pour faire contrepoids à la puissance hégémonique américaine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que toute puissance qui se sent menacée dans son hégémonie commence à paniquer parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la puissance hégémonique américaine est dans un confort absolu. Confort absolu sur le plan financier, sur le plan économique. Vous imaginez un pays qui imprime des billets de banque et qui fait ce qu'il veut avec. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et je pense même que les Russes et les Chinois ont beaucoup patienté avant de poser le problème. Et donc, cette puissance qui est d'ailleurs déclinante, puisqu'elle a sous-traité toutes ses activités économiques de production, cette puissance-là, elle ne peut pas céder comme ça, la place. Et c'est ce qu'on appelle, vous avez sans doute entendu parler de ça, c'est le syndrome de Thucydide. Le syndrome de Thucydide, c'est un concept inventé par un politologue américain pour décrire ce qui s'est passé entre Sparte et Athènes. Pendant que Sparte était la puissance dominante, Athènes commençait à monter, et puis il y a eu la guerre de Péloponnèse qui a mis aux prises Athènes et Sparte pour l'hégémonie. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Le deuxième problème, c'est que la puissance américaine veut inventer ce qu'on appelle la mondialisation, veut un monde global avec un seul pouvoir, etc. Or, les puissances montantes, comme la Chine, comme la Russie, je dirais même comme l'Iran, ce sont ce que René Guénon a appelé l'état-civilisation. Et la grande question qu'on peut poser, qu'est-ce que c'est l'état-civilisation? C'est-à-dire un état, une nation, une culture, une histoire et un grand lien spirituel. comme l'est actuellement la Russie, comme l'est la Chine également, comme l'est l'Iran, même dans une moindre
mesure. Mais qui constitue un complexe pour les Américains.
Oui, n'importe quand
on leur parle d'histoire.
Non, exactement, absolument. C'est la 39e rue, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Ouais. On ne donne pas des noms de personnes, parce qu'il n'y a, pas beaucoup de personnes, sauf les Indiens qui malheureusement ont subi aussi ce qu'ont subi d'autres peuples. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, le problème, c'est que les grands États-civilisations, comme la Chine et la Russie, ne sont pas solubles dans le mondialisme. C'est ça qui est terrible. Et ça, malheureusement, ça risque d'aller très loin. Non seulement les grands États comme la Chine et la Russie n'acceptent plus le fonctionnement du monde tel qu'il est actuellement, mais la tentative américaine de globaliser le monde va se heurter à ces États-civilisations qui ne sont pas prêts à être absorbés. Je rappelle toujours un exemple, lorsque vous avez un petit serpent qui attrape un crapaud pour l'avaler, ou une grenouille, la grenouille, elle étend les bras. Et il est très, très difficile ensuite au serpent de l'avaler parce que c'est pas, il peut pas l'avaler, il peut pas la digérer. Et c'est le cas de la Chine et de la Russie. C'est des pays tellement importants par leur passé, par la grande qualité aussi de leur civilisation, que c'est pas évident qu'elle soit absorbée dans le monde globaliste que nous promettent les Américains.
Et votre avis, la récente escalade suite à l'attaque du pont de Crimée, elle peut dégénérer vers des choses. D'abord, il y a les experts, les médias occidentaux qui accusent la Russie d'avoir été la responsable de cette escalade. Et que pensez-vous de tout ça?
Bien évidemment, il est absolument impensable que la Russie se sectionne la carotide. Là, je parle en tant que médecin. Parce que Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ce sont les vaisseaux sanguins ultra-stratégiques de la Russie. Et de l'Allemagne. Mm-hmm. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, l'Allemagne et la Russie. Donc, le couple Allemagne-Russie a été très durement touché par l'attaque sur les deux gazoducs. Donc, il est impensable que la Russie se tire une balle dans le pied pour arrêter les... Parce qu'ils auraient pu fermer le robinet, déjà. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Je compare toujours ce qui s'est passé pour le Nord Stream à ce qu'avait subi l'Allemagne, puisqu'il s'agit de l'Allemagne, à ce qu'avait subi l'Allemagne après le traité de Versailles. Parce que si l'Allemagne n'a pas d'énergie, son économie est complètement réduite à néant. Ouais. Absolument. Et donc, qu'est-ce que ça a produit après le traité de Versailles? Ça a produit le nazisme. Il ne faut pas oublier ça. L'émergence des SS, des chemises noires, etc., en Italie, des fascistes et des nazis. Donc, ce qui a été fait pour Nord Stream 2, ça peut être contre-productif. Bref, mais c'est peut-être le résultat recherché. Quant à au sabotage du pont, évidemment, il est aussi impensable d'imaginer un seul instant que ce soit les Russes qui l'aient. Ils ont tellement mis de peine et de temps, d'argent pour établir une continuité territoriale avec la Crimée qu'ils considèrent leur appartenant, que je vois mal comment les Russes feraient exploser un camion sur le pont. Et donc, c'est un coup très grave également et qui a une haute valeur symbolique parce qu'on veut supprimer la continuité territoriale entre la Russie continentale et la Crimée. C'est la région de Kerch, on appelle ça, le pont de Kerch.
La ville,
le pont de Kerch ou le pont de Crimée. Donc, c'est l'isolement de la Crimée. Et c'est, à mon avis, ça que cherchent ceux qui ont saboté le pont. Donc ça, c'est un coup très dur porté à la Russie, même si les choses peuvent être rétablies. Et ça va contribuer à exacerber considérablement la tension et l'escalade. La preuve, moi je l'avais dit ce week-end, la preuve, c'est que je crois que les Russes ont bombardé de manière massive un certain nombre d'installations stratégiques pour l'Ukraine, et ça ne fait que commencer. C'est pour ça que je vous dis, je suis très pessimiste.
Vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Moi, Kamal Ouadj, viens de recevoir Belay Daban, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national algérien et la révolution algérienne, dont un dernier roman, la lune à la ravine des oliviers. Ce que les petites gens ont vécu comme souffrance durant la période coloniale dont on parle rarement est l'un des principaux problèmes qui pèsent sur l'imaginaire populaire des deux côtés de la Méditerranée. Elles entretiennent les conflictualités passionnelles rendant difficile tout rapprochement. Ainsi, tout travail sur cette période historique ne pourrait faire l'économie d'un traitement profond de cette question de la mémoire populaire. Je vous rappelle que c'est l'émission L'Afrique en marche. Nous allons continuer à débattre, chers auditeurs, avec le docteur Youssef Girard, historien français du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. Je vous salue de nouveau sur nos ondes. Bienvenue à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, avec mes invités, nous traitons de l'histoire de la colonisation française en Algérie. Le 17 octobre 1961 est une date tragique de l'histoire de l'Algérie, mais aussi de la France. Et si on noie les Algériens? Il y avait une telle description clinique griffonnée sur le muret du Pont Saint-Michel à Paris. La veille, plusieurs centaines d'Algériens avaient trouvé la mort sous la répression des policiers français. Et cependant, une manifestation contre le couvre-feu appliqué au moment de la guerre d'Algérie. Longtemps, ce massacre a été oublié, mais aujourd'hui, c'est un symbole de la renaissance de la conscience de tout un continent qu'est l'Afrique. Nous allons en parler avec le docteur Youssef Girard, historien français du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie.
Monsieur Girard, ravi de vous retrouver pour ce nouvel entretien.
Ravi également.
Merci. Donc, l'occasion du 17 octobre 1961, et ce sont des événements où les Algériens ont manifesté à Paris pour dire leur refus du couvre-feu qui leur a été imposé, alors qu'il n'est pas été imposé pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces événements? Est-ce qu'il y a des zones encore d'ombre qui entourent ces événements et dont on ne parle pratiquement pas?
Les événements aujourd'hui, il y a quand même un travail par des historiens comme Jean-Luc Enodi, par exemple, qui a été pionnier dans le travail sur le 17 octobre, ou des historiens anglais comme Jim House et Neil McMaster qui ont écrit un livre plus tard qui permettent quand même de bien cerner aujourd'hui ce massacre du 17 octobre. Hein. Donc c'est un massacre qui a lieu à la fin de la guerre d'Algérie, on est en 61, avec un gouvernement français qui en tous les cas a accepté dans les grandes lignes l'indépendance de l'Algérie. Après, il s'agit pour le gouvernement français d'arriver en position de force pour défendre au maximum ses intérêts dans une Algérie post-coloniale dont la France veut garder un certain nombre de précarés, de mainmise, hein, notamment sur les ressources pétrolières du Sahara, puisque depuis déjà plusieurs années un certain nombre de gisements pétroliers et gaziers dans le Sahara. Pour la France, il s'agit d'arriver en position de force sur l'indépendance. Pour ça, il faut affaiblir notamment la Fédération de France, qui est une des principales sources de financement du FLN, puisque les travailleurs immigrés algériens en France cotisaient pour le FLN, et puis cet argent était transmis donc au FLN pour continuer son mouvement. En 61, avant le massacre, il y a eu une série d'affrontements entre le FLN, enfin, la Fédération de France du FLN, notamment l'organisation spéciale de la Fédération de France du FLN et les forces de police France. Et c'est dans ce cadre-là qu'un couvre-feu raciste, puisque ça ne concernait que les personnes nord-africaines, hein, donc principalement les Algériens, mais aussi enfin, toute personne identifiée comme étant réellement ou supposément nord-africain, dans la soirée, dans la nuit, en région parisienne, et donc c'est un peu ce qui a été pris par la préfecture de police de Paris. Face à ce couvre-feu raciste, la Fédération de France du FLN a décidé d'organiser une grande manifestation dans le 17 au soir, dans les rues de Paris. Grande manifestation qui devait être strictement pacifique, hein, puisque voilà, il était hors de question pour la Fédération de France de même avoir un couteau suisse dans la poche parce qu'il fallait vraiment que ça soit une manifestation pacifique pour montrer l'opposition des de la communauté algérienne en France, hein, de la diaspora algérienne à ce couvre-feu et au-delà de ça peser dans les négociations pour l'indépendance de l'Algérie en montrant que les Algériens de France étaient également mobilisés. Donc le 17 au soir, il y a environ 30 000 personnes, 30 000 Algériens, Algériennes, femmes, enfants, voilà, un peu de tous âges, qui sont descendus dans les rues de Paris, ou en tous les cas qui ont essayé de descendre dans les rues de Paris. Certains sont même pas arrivés à Paris, hein. Il y a eu des fusillades au pont de Bezons. Je sais pas si certaines personnes connaissent la région parisienne, c'est-à-dire dans la banlieue immédiate de Paris pour empêcher, notamment les Algériens qui habitaient dans les bidonvilles de la périphérie, hein, parce qu'il y avait énormément de bidonvilles à l'époque, hein, notamment le plus connu, c'était le bidonville de Nanterre, qui est un grand bidonville dans lequel, vivaient énormément de familles algériennes qui étaient, familles ouvrières, très pauvres. Et donc, y a, sur ces 30 000 manifestants, il y a 11 000 personnes qui ont été arrêtées, qui ont été enfermées, par exemple, dans des endroits qui n'ont strictement rien à voir avec des commissariats, enfin des procédures classiques. Hein, par exemple, le Vélodrome d'hiver, et un certain nombre de manifestants ont été enfermés au Vélodrome d'hiver à Paris ou dans des salles de spectacle parisiennes. Sur ces 11 000 personnes, un grand nombre ont été renvoyés en Algérie. Il y en a d'autres, évidemment, qui ont été blessés par centaines. Et on considère que avant le 17 octobre, mais aussi après, parce que les massacres ont continué les jours suivants, hein, il y a des gens, par exemple, qui ont été arrêtés, qui ont été emmenés au bois de Vincennes et pendus aux arbres du bois de Vincennes. On estime qu'il y a entre 200 et 300 Algériens qui sont morts durant cette période-là, mais les chiffres sont très compliqués à donner parce que, évidemment, la police ne recensait pas les morts algériens comme étant victimes de la répression policière, puisque c'est l'assassin qui faisait la comptabilité. Donc forcément, on annonçait qu'il y avait des gens qui avaient disparu, mais on disait pas pourquoi ils avaient disparu. Donc c'est très très compliqué d'avoir une comptabilité extrêmement précise du nombre de personnes tuées à ce moment du 17 octobre. Il y a des gens qu'on connaît, hein. Il y a une étude notamment d'une historienne algérienne qui s'appelle Malika El Corso sur une jeune fille qui s'appelait Fatima Bérard qui habitait à Saint-Denis et qui dont le corps a été retrouvé dans le canal de la ville quelques jours plus tard, par exemple.
D'accord. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit au début, sur cette volonté des autorités françaises qui négociaient justement pour l'indépendance de l'Algérie, de se projeter dans l'après-indépendance en essayant de se réserver des prés carrés ou des chasses gardées pour faire avancer les intérêts de la France. Ce qu'on appelle les réseaux France-Afrique ou les réseaux Foucault, est-ce que vous pensez que le fait de ne pas justement aborder les problèmes mémoriaux qui posent toujours problème parce que ces questions ne sont pas élucidées ou du moins elles ne sont pas intégrées dans le débat entre les différents pays, ceux qui ont été colonisés et les colonisateurs. Et cette politique de la France-Afrique qui est actuellement d'une manière très populaire contestée en Afrique.
Alors là, il y a là une situation un peu particulière qui est là, ce qu'on a appelé aussi la France-Algérie, qui est un peu, peut-être pas exactement, je vais étudier ça très précisément, les mêmes réseaux que la France-Afrique, mais il y a eu des choses, hein, sur la France-Algérie, sur les continuités de la colonisation les continuités entre la période coloniale et la période. Évidemment que les questions mémorielles, mais c'est pas que des questions mémorielles, c'est aussi des questions très pratiques. Par exemple, l'Algérie, depuis l'indépendance, demande la rétrocession des archives que la France a emportées et qui sont à Aix-en-Provence, et qui ne sont pas que des archives françaises, qui sont aussi des archives de la période ottomane. Donc, parce que la France a colonisé, elle a récupéré les archives de la période ottomane, et ces archives de la période ottomane se retrouvent à Aix-en-Provence. Bon, comme les archives. Non. Donc, c'est pas que des questions mémorielles, c'est aussi des questions pratiques sur, par exemple, comment on gère les archives. Ces questions-là, effectivement, elles sont pas réglées. Et en France, j'allais vous dire, la question mémorielle, elle a une double face. C'est-à-dire qu'elle a une face, effectivement, de relations internationales entre la France et l'Algérie, ou plus largement entre la France et l'ensemble des pays africains qui ont été colonisés par la France, mais elle a aussi une dimension interne. C'est-à-dire que le discours mémoriel actuellement qui est tenu par les autorités françaises, hein, par Macron, par exemple, et puis le rapport, par exemple, Stora qui a été fait l'an dernier, c'est un rapport sur la mémoire entre la France et l'Algérie, mais qui cible particulièrement les personnes issues de l'immigration en France, en disant que ces gens-là développent une mémoire post-coloniale qui crée des tensions identitaires en France, etc. Donc, cette mémoire postcoloniale, c'est tout simplement une mémoire qui demande la vérité sur ce qui s'est passé durant la colonisation et qui essaye d'étudier les liens et qui conteste évidemment la situation actuelle des liens entre la gestion de l'immigration et des descendants de l'immigration et la période coloniale. En gros, c'est une manière de refuser aux héritiers de l'immigration, aux descendants d'immigrés, l'égalité en France. Hein, c'est tout simplement ça. Et ça, c'est, je pense que quand on étudie les questions mémorielles, c'est très important de voir ces deux dimensions. La dimension relation internationale et la relation interne. Je ne sais pas si les gens se souviennent des déclarations de Macron il y a à peu près un an sur... c'était des déclarations, en vérité, plus destinées à l'élection présidentielle et à des enjeux politiques internes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout se sait, et donc ça a créé des très fortes tensions avec l'État algérien.
Ouais. Et donc, vous évoquez quand même un important problème, qui est celui justement des questions, au-delà des questions mémorielles, et celles qui concernent des problèmes pratiques. Et qui vraiment bloque l'épanouissement d'une relation apaisée et tournée vers le futur. D'ailleurs, vous avez cité la question des archives. Il y a la question aussi de la récupération des crânes des anciens combattants qui sont que la France refuse encore de restituer. La restituer, ça fait 2 ans, je crois, de 24 crânes. Mais encore, il y a plus que ça. C'est les archives qui concernent les essais nucléaires que la France a menés en Algérie et dont on ne connaît pas les cartes où ont été menés ces essais et les cartes de l'expansion des déchets, qu'ils soient gazeux ou les poussières radioactives. Ça d'un côté, et de l'autre c'est aussi qui est quand même un problème assez épineux, c'est celui des mines personnelles qui ont été mises sur les deux lignes Charles et Maurice pour séparer l'Algérie de la Tunisie et du Maroc. Tout ça il n'a pas été. Alors la question justement, quand on ferme la porte au traitement de ces problèmes, parce que les essais nucléaires ou la ligne Maurice et Charles font encore des victimes. Même aujourd'hui, on ne sait pas où sont les mines personnelles. Comment, dans ce cas-là, peut-on débarquer à Alger avec 16 ministres, je parle de la première ministre française, pour dire que nous avons décidé de faire une relation nouvelle et tournée vers le futur.
Posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'est-ce qui a changé entre il y a un an et les déclarations extrêmement virulentes d'Emmanuel Macron sur justement la mémoire algérienne, l'histoire officielle en Algérie, etc., etc. Je pense que les gens, j'espère que les gens ont en mémoire ces déclarations qui étaient quand même très, 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 violentes, hein,
Oui,
déclarations.
absolument.
Et un an plus tard, on nous explique le même pouvoir, puisque Emmanuel Macron a été réélu, qu'on va établir de nouvelles relations apaisées et que tout va bien. C'est-à-dire qu'il y a un an, on était prêt, on avait un gouvernement qui était quasiment prêt à envoyer, excusez-moi l'expression, balader les relations avec l'Algérie en disant en gros, c'est votre, ça nous concerne pas, ça nous intéresse pas, vous êtes une dictature militaire qui utilisait l'histoire comme une rente mémorielle, c'était le terme de Emmanuel Macron. Et maintenant, un an plus tard, la première ministre nommée par ce même président, bon, c'est tout ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a un problème d'approvisionnement en gaz et en pétrole, et que la France vient chercher du gaz et du pétrole. Je pense que la question de la mémoire, de la justice historique, de l'histoire, des problèmes concrets sur effectivement les essais nucléaires que vous évoquiez ou les mines au niveau des frontières algériennes. Tout ça intéresse assez peu le gouvernement français. Actuellement, ce qui les intéresse, c'est que l'Algérie fournisse le gaz et le pétrole dont la France a besoin pour faire fonctionner le pays. Et que pour ça, effectivement, on est prêt à beaucoup de déclarations. Je suis sûr qu'actuellement, s'il y a plus, si, si, s'il y a pas de quoi chauffer la France pendant l'hiver, on va tout de suite retrouver les plans des mines antipersonnel Charles et Maurice. Hein. Ça peut aller très vite. Hein.
Et dans cette lignée, il y a les autorités algériennes, tout comme les autorités françaises, et les autorités françaises qui accusent les Algériens qu'il y a des réseaux qui sabotent les relations, les Algériens qui accusent la France en disant qu'il y a des réseaux qui sabotent les relations. Je crois que ça, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, en la nommant comme la France à Algérie. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous développer ce concept-là? Qu'est-ce que vous voulez dire par la France à Algérie?
La France-Algérie, c'est d'abord un livre qui a été écrit il y a quelques années hein, par un journaliste algérien qui développait sur un livre très épais les relations justement entre la France et l'Algérie. Mais on pourrait revenir, enfin les relations néocoloniales, hein, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est pas des relations, si c'était des relations d'État à État apaisées et normales, comme la France peut avoir, je sais pas, avec la Belgique, il n'y aurait pas de soucis particuliers. C'est des relations néocoloniales qui sont basées sur des intérêts entre certaines personnes en Algérie et certaines personnes en France qui ont des intérêts communs à maintenir une relation néocoloniale entre ces deux pays. Notamment pour l'exploitation de certaines ressources, le gaz, le pétrole, ou pour par exemple la fourniture de l'armement. La France, pendant des années, a fourni de l'armement ou a vendu du blé aussi à l'Algérie. Hein. L'Algérie est un marché par exemple pour les céréales françaises. Donc il y a des relations qui sont pas des relations à dire saines, puisque il y a même je crois que c'était un dossier Mediapart sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron qui aurait été en partie financé par des financements qui viendraient de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, je suis pas spécialiste de ces questions-là, mais c'est des choses qui sortent de temps en temps. Et puis des relations culturelles aussi. Hein. On ne sait pas avec l'Algérie, mais on sait par exemple avec la Tunisie parce que c'était sorti après la révolution tunisienne que la France finançait la presse francophone tunisienne. On va bien savoir ce qu'il en est de la partie de la presse francophone algérienne, qui des fois est très francophile, par exemple.
D'accord. Donc, c'est ce que vous avez rappelé par rapport à cette France-Algérie, mais pas uniquement la France-Algérie, mais en général, on parle de la France-Afrique. Depuis le début de la crise en Ukraine, notamment avec le début de l'opération russe dans ce pays, il y a des bouleversements mondiaux qui se dessinent de plus en plus, un monde qui veut exister en dehors de la domination occidentale. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qui se passe dans les pays africains, justement, qui contestent ouvertement, ou les masses populaires contestent ouvertement l'influence qu'ils jugent négative de la France postcoloniale, comme au Mali, comme au Tchad, comme au Niger?
Je crois que c'est un mouvement qui est beaucoup plus profond que l'invasion ou l'opération militaire, comme on pourrait l'appeler, russe en Ukraine. C'est quelque chose qui a plusieurs années déjà, notamment en Afrique de l'Ouest, avec la contestation du franc CFA, qui est quand même quelque chose de profond et qui date de plusieurs années maintenant, où il y a une mobilisation des sociétés civiles des pays d'Afrique de l'Ouest sur cette question du franc CFA, puisqu'ils veulent, enfin une partie en tous les cas de ces sociétés civiles, veulent récupérer leur souveraineté monétaire, c'est-à-dire ne plus avoir le franc CFA dont, par exemple, les billets sont imprimés en France. Hein. Le franc CFA, ça fait quand même…
C'est le franc des anciennes colonies de France.
C'est ça. Il y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont une monnaie qui a le nom de l'ancienne puissance coloniale, quoi. C'est quand même assez marquant, rien que le nom. Et donc il y a cette contestation du franc CFA qui quand même a plusieurs années, avec des mouvements, des manifestations, des livres qui ont été publiés, des conférences. Enfin, il y a toute une mobilisation de la société civile des pays d'Afrique de l'Ouest qui utilisent cette monnaie-là, contre cette monnaie-là, en disant que c'est une monnaie néocoloniale et qui empêche, parce que c'est pas simplement une monnaie pour une monnaie, mais qui contraint et qui empêche, qui entrave le développement des pays d'Afrique de l'Ouest. Et ce qui est souvent pris comme exemple dans ces pays-là, c'est l'exemple du Ghana voisin, qui a un développement supérieur. Et certains économistes, alors je suis pas spécialiste d'économie, je suis pas économiste, mais en tous les cas, certains économistes africains défendent l'idée, avec argument économique à l'appui, hein, que le Ghana a un développement supérieur, plus rapide, etc., notamment parce qu'il a une souveraineté monétaire que n'ont pas les pays francophones voisins. Cette question-là, c'est une question, c'est une question profonde, urgente pour les pays africains. Et donc cette contestation-là, elle est comme elle est très ancienne. Effectivement, là depuis notamment l'évacuation des troupes françaises du Mali, on voit que ça a créé un exemple entre guillemets pour les pays voisins en se disant le lien justement néocolonial, la France-Afrique, etc. Finalement, même un pays parmi les plus en difficulté d'Afrique, hein, le Mali c'est un pays, c'est ce qu'on appelle un PMA, un pays les moins avancés en géographie. Même un pays africain en difficulté comme le Mali peut faire le choix de prendre ses distances avec Paris.
Mais une question quand même qui revient à l'esprit de n'importe quel observateur qui se penche un peu sur ces questions-là. C'est de se poser la question, mais comment la France a pu à ce jour continuer à maintenir ce système, comment, par quel mécanisme, par quelle alchimie elle a réussi à maintenir ce système, où actuellement encore les pays africains de la CEDEAO, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, sont obligés de déposer 50% de leurs réserves en devise, contre lesquelles la France appuie sur le bouton à Chamalières pour imprimer le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, et dont 1 euro coûte actuellement, je crois si j'ai la bonne mémoire, 600 environ 650 francs CFA, c'est autant dire que pratiquement rien du tout. Et avec la chute de la valeur de l'euro, c'est les premiers pays africains qui vont payer le prix de cette chute de la valeur, la dépréciation de la valeur et de l'inflation, ce sont ces pays. On ne comprend pas comment ils continuent encore à être à l'intérieur de ce système.
On le sait, c'est que les indépendances africaines, notamment les pays d'Afrique, l'Afrique subsaharienne, ont été des indépendances négociées en dehors de la Guinée de Sékou Touré, avec tous les problèmes qui ont été faits justement à cette Guinée de Sékou Touré pour que la mettre en difficulté, etc. Tous ces pays-là ont eu des indépendances négociées où la France a été en mesure de mettre des hommes qui étaient proches d'elle. C'est-à-dire, on connaît peut-être le cas le plus emblématique, enfin l'un des cas les plus emblématiques, plusieurs, mais c'est le cas où Houphouët Boigny en Côte d'Ivoire, où la France effectivement a, etc. Et dès qu'il y a eu des contestations, pensons par exemple à Sankara,
oui.
Il y a eu coup d'État et renversement, et on va pas se mentir, on sait très bien que derrière le coup d'État au Burkina et le renversement de Thomas Sankara, il y avait Paris et il y avait François Mitterrand. C'est quelque chose qui est assez connu aujourd'hui, que Blaise Compaoré était en lien avec Paris, était en lien aussi avec Félix Houphouët-Boigny, et donc comme ça on a pu maintenir des États soumis parce qu'on avait la puissance militaire et qu'on a fait des interventions. Mais on pourrait, j'ai donné l'exemple de Sankara, mais Modibo Keïta au Mali, voilà, on pourrait multiplier les exemples de dirigeants africains qui ont essayé de prendre leur distance avec l'ancienne puissance coloniale et dont la politique s'est soldée par une répression violente et la mort même pour Sankara, et ça s'est terminé dans la violence. Hein.
Ouais, on se rappelle très bien de son discours du 17 juillet 87 lors du sommet de l'Organisation de l'Union africaine, où il disait: si le Burkina Faso demeure seul à refuser de payer la dette, je ne serai pas ici parmi vous la prochaine conférence. 3 mois après, il a été assassiné justement par ses anciens compagnons d'armes, dont celui que vous venez de citer, Blaise Compaoré. Pour terminer, Monsieur Girard, cet entretien passionnant, à votre avis, comment les jeunes générations, parce que le futur est certainement pour eux, mais comment les jeunes générations pourraient régler tous ces problèmes-là et faire en sorte qu'un jeune en Europe ou en Afrique puisse avoir les mêmes chances et les mêmes horizons pour se développer normalement et s'émanciper normalement?
C'est une question très 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 compliquée, parce qu'il y a un échange inégal au niveau mondial qui maintient l'Afrique dans une situation très 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 compliquée. Maintenant, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, et c'est ce qui pose problème en France et qui crée une grande inquiétude, c'est qu'un certain nombre d'États africains ne veulent plus rester en tête à tête justement avec l'ancienne puissance coloniale et qui veulent établir des relations multilatérales avec plein de pays qui sont la Chine, la Russie, la Turquie, tous ces pays qui investissent en Afrique et qui inquiètent beaucoup beaucoup la diplomatie française. Mais je pense que d'un point de vue des pays africains, justement leur intérêt c'est de ne pas rester en tête à tête avec un seul pays, mais d'essayer de défendre chèrement leurs intérêts en ayant des relations multiples selon leurs intérêts, avec les pays avec lesquels ils peuvent passer des contrats, avoir des marchés, avoir des nouveaux clients, et pas rester en tête à tête justement pour faire valoir la concurrence en fonction de leurs intérêts à eux. Et ça nécessite quelque chose de fondamental, c'est à mon avis l'aboutissement du processus de décolonisation. On dit souvent que l'indépendance des pays africains, bon, pour la majorité c'est 60, pour l'Algérie c'est 62, mais l'indépendance c'est aussi un processus, hein. Et il n'y a pas d'indépendance politique sans souveraineté économique. Il n'y a pas de souveraineté économique sans souveraineté culturelle. La souveraineté économique et la souveraineté culturelle, elles se sont pas gagnées en 62, elles se sont ou en 60. C'est des combats qui doivent être menés par les sociétés africaines anciennement colonisées, encore aujourd'hui. Et c'est seulement l'achèvement de ces combats-là. D'accéder à une indépendance politique, économique, culturelle, qui permettra d'avoir des relations plus égalitaires entre tous les pays, et notamment entre la France et ce qui est encore considéré comme ses anciennes colonies.
D'accord. Je vous remercie, Monsieur Girard. Ça a été un plaisir de vous avoir encore une fois pour un entretien concernant l'histoire coloniale de la France. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois, que nous aurons d'autres occasions pour traiter d'autres sujets. Merci beaucoup.
Merci à vous, avec plaisir.
Vous avez écouté le docteur Girard Youssef, historien français du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. Permettez-moi de tirer le bilan de cette nouvelle édition consacrée à la guerre d'Algérie au-delà des déclarations de bonnes intentions d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée. Pour créer une relation réellement apaisée et tournée vers le futur, il est impératif de commencer par régler les problèmes pratiques qui minent cette démarche, à savoir la question des essais nucléaires français en Algérie et la restitution des crânes des résistants algériens. Seul le règlement de ces questions permettra de faire un pas important vers l'avant dans un climat de confiance mutuelle. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission avec d'autres sujets passionnants. Chers auditeurs, à très bientôt.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.